France Culture.
Mais tout de suite, on retrouve le journal de la rédaction. Bonjour Thomas Cluzel.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Macron présentera ce soir à 20h ses vœux aux Français, un rituel politique quasi immuable depuis plus de 60 ans. Le huitième en l'occurrence pour l'actuel locataire de l'Élysée, mais qui dans le contexte actuel s'annonce déjà, on le verra, comme un exercice périlleux. À suivre également les bons chiffres de la fréquentation des salles obscures, l'occasion de s'interroger est-ce que le succès du cinéma français est rentable. L'actualité à l'étranger, c'est notamment ce mandat d'arrêt international délivré à l'encontre du couple présidentiel au Nicaragua, accusé d'avoir instauré l'une des pires autocraties du continent sud-américain. Enfin, on poursuivra notre série sur les transformations de nos grands établissements publics pendant ce premier quart de 21e siècle. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'INSEE, l'Institut National de la Statistique. En ce dernier jour de l'année 2024, si les préparatifs du traditionnel réveillon de la Saint-Sylvestre vont bientôt commencer, il faudra d'abord en passer par un autre rituel obligé du passage à la nouvelle année, la fameuse allocution télévisée du chef de l'État pour la présentation de ses vœux aux Français. Emmanuel Macron prendra la parole dans le poste à 20h. L'occasion bien sûr de tracer des perspectives pour 2025, mais aussi généralement de dresser un bilan des 12 mois écoulés. Or, ce titre, et à l'exception de quelques parenthèses enchantées, les Jeux Olympiques et la réouverture de Notre-Dame de Paris pour le reste, eh bien, il n'est pas certain que le président voudra nécessairement s'attarder trop longtemps sur cette annus horribilis qu'il avait pourtant rêvé et même vanté il y a un an, jour pour jour, comme l'année du réarmement de la nation, une formule déclinée ad nauseam, réarmement économique, industriel, scientifique, démographique, et qui en réalité, Rosalie Lafarge, ce sera surtout conclu par un désarmement total, une crise à la fois politique et institutionnelle inédite.
Il y a un an, Emmanuel Macron voulait y croire.
2024, année de la détermination, de l'efficacité, des résultats, de choix, de régénération, de fierté. Au fond, une année d'espérance.
Mais si ces paris de Jeux Olympiques réussis et d'une réouverture de Notre-Dame 5 ans après l'incendie ont été tenus, l'année politique, elle, a pris un chemin un peu différent. Pas de réforme d'envergure, pas de budget voté, puisque tout semble bloqué, particulièrement depuis la lourde défaite du camp présidentiel aux élections européennes et cette décision qui l'a suivie.
J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Depuis, le président paraît spectateur d'une pièce non écrite. Après 51 jours de gestion des affaires courantes par le gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal, Emmanuel Macron nomme le LR Michel Barnier à Matignon. Il tombe 3 mois plus tard.
En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement.
Premier ministre le plus éphémère jusqu'ici, en tout cas de la 5e République, Michel Barnier cède sa place juste avant Noël au modem François Bayrou, dont les premiers pas ne permettent pas à ce stade de garantir un maintien à beaucoup plus long terme, rue de Varenne. Or, et c'est un soutien du président qui l'affirme, si François Bayrou tombe derrière, c'est Emmanuel Macron qui risque de ne pas réussir à se relever.
Alors, on l'aura compris, l'ombre de la dissolution devrait peser sur ses vœux au moins tout autant qu'elle aura écrasé le calendrier de cette année 2024. Et de fait, quand bien même au regard de certains autres événements, en particulier internationaux, qu'il s'agisse des crises sanglantes, massives à Gaza ou en Ukraine, cette dissolution voulue par Emmanuel Macron envers et contre tout peut paraître bien dérisoire. C'est pourtant ce moment-là qui aura donc le plus marqué les Français cette année, selon une enquête de l'IFOP. Que faut-il en déduire? Jeanne Serrin a posé la question à son directeur, Frédéric Dabi.
Ça en dit long sur cet événement, sur cet acte du président. L'impact qu'il a eu sur les Français est absolument majeur. On l'a vu à travers la participation très forte, à travers le renversement des résultats entre le premier tour et le second tour. C'est clair que cet événement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'est pas ancré dans le passé. Il n'est pas fermé, la page n'est pas tournée pour les Français. La dissolution continue à, je dirais, structurer les perceptions de l'opinion publique. C'est particulièrement inédit. Ça a sidéré une vraie incompréhension. Rien à voir avec la dissolution, la dernière, celle de Jacques Chirac, en avril 97, où, même si elle avait été rejetée, la droite avait perdu les élections. Une part importante des Français avait compris la stratégie. Là, ce qui est très notable, c'est à quel point cet événement a enraciné une triple critique en termes de déconnexion à l'égard d'Emmanuel Macron sur le mode « il ne nous connaît pas, il ne nous écoute pas, il ne nous comprend pas ». Ça a été vu comme un caprice. Et encore aujourd'hui, c'est un des éléments majeurs du mécontentement à l'égard d'Emmanuel Macron. C'est cet acte dissoudre parce que les Français ont vu qu'il n'y avait pas vraiment de vainqueur, que le système est complètement bloqué, avec 4 premiers ministres qui se sont succédés en 2024, dont 2 du fait directement de la dissolution.
Frédéric Dabi, directeur de l'IFOP, il était interrogé par Jeanne Serrin. Après une journée de visite à Mayotte, François Bayrou a repris son avion direction Paris, non sans avoir pris une bonne résolution pour l'archipel dévasté. Une batterie de mesures destinées au redressement de l'archipel, ou pour le dire autrement, une série de promesses que la population, encore toute à sa colère après les ravages du cyclone, espère qu'elles ne seront pas trahies par l'État.
Les aides pour l'embauche d'un apprenti seront maintenues pour toutes les entreprises l'an prochain.
Oui, sauf que leur montant va être abaissé. Le dispositif actuel qui prévoit une aide de 6 000 euros pour toutes les entreprises tombera à 5 000 euros pour les PME et 2 000 pour les grands groupes. Wafia Kenich, bonjour.
Bonjour Thomas.
Le ministère du Travail a donné quelques détails hier soir sur ce nouveau dispositif et notamment le gouvernement explique, Wafia, avoir pris cette décision pour éviter un retour automatique à la situation d'avant Covid.
Oui Thomas, car sans intervention du gouvernement, l'aide n'aurait plus concerné que les jeunes au niveau bac ou en dessous. Par ailleurs, seules les entreprises de moins de 250 salariés en auraient bénéficié, soit moins d'un tiers des contrats, précise encore ce communiqué du ministère. Finalement, il y aura bien une aide pour tous les types de contrats, quel que soit le niveau de diplôme préparé. Alors pour les entreprises de 250 salariés et plus, l'aide sera toujours soumise à des conditions supplémentaires sur les propositions d'alternants et les contrats d'insertion professionnelle. Pourquoi l'État verse-t-il des aides aux entreprises pour ces contrats d'apprentissage? Pour réduire le coût d'un apprenti pour l'employeur, une manière pour le gouvernement de pousser à la formation des plus jeunes et dans un second temps à l'embauche de ces apprentis. Une stratégie qui a bien fonctionné puisque le nombre de contrats d'apprentissage est passé de 425 000 en 2017 à 1 million en 2024. Une politique incitative qui coûte très cher. Selon un rapport de la Cour des comptes, le coût pour les finances publiques s'est élevé en 2022 à plus de 17 milliards pour les aides aux contrats en alternance. On comptabilise ici essentiellement le coût des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation, de reconversion et d'aide à l'embauche d'alternants. Avec cette baisse de l'aide aux entreprises d'environ 1 500 euros, l'État table sur une économie de 1 milliard en 2025. Ces nouvelles mesures du gouvernement sur le financement de l'apprentissage doivent être validées par décret courant janvier.
Merci Wafia Kenich. Quand la fiction n'a pas toujours besoin d'être dépassée par la réalité pour exceller, 2024 aura été un excellent millésime pour le cinéma avec 181 300 000 billets vendus. La France est même le seul pays au monde dans lequel davantage de gens ont poussé la porte d'une salle obscure que l'année précédente. Sans compter que cette fréquentation exceptionnelle est tirée en l'occurrence par le succès du cinéma national. Près de la moitié des spectateurs, 44%, sont allés voir des films français qui, au-delà de leur qualité, auront aussi profité, c'est vrai, de l'absence des films américains en raison de la grève à Hollywood. Alors pour autant, est-ce que le cinéma français a trouvé la nouvelle recette pour créer des films rentables? Célia Guetti a posé la question à Éric Lagesque, au président de l'Association des distributeurs indépendants européens.
J'ai pas l'impression que ce sont des films calculés, c'est pas des films qui étaient calibrés pour marcher. Je sens que les films un peu trop calibré aujourd'hui. Le public a tendance peut-être non pas à les bouder, hein, mais ils sont moins voués à de très gros succès de box-office en fait. Je pense que c'est ça qui a changé et qui est en train de changer, en tout cas si on veut tirer une conclusion de l'année 2024, sachant que franchement, dans le cinéma, je trouve que c'est un domaine de surprise en fait. Je ne sais pas si on peut tirer une conclusion en se disant que maintenant le cinéma indépendant se met à marcher. Le cinéma indépendant, il y a toujours eu des films qui ont cartonné, qui ont été des surprises, et puis il y a énormément de films qui ne marchent pas aussi bien qu'on peut l'espérer. Moi, ce qui me conforte le plus, c'est qu'en fait, c'est une plutôt belle année pour des films indépendants. Et ça nous donne envie, en fait, de continuer à mettre en avant l'indépendance dans les salles de cinéma françaises. Et je pense que le pays, la nation, la France, est un grand pays de cinéma. Et je m'inquiète un tout petit peu de certaines mesures qui ont pu être prises par-ci, par-là, justement pour donner un peu moins de subventions dans des régions, etc. Et pour moi, c'est indispensable de continuer à promouvoir ce type de cinéma-là.
Éric Lagesse, donc co-président de l'Association des distributeurs indépendants européens, joué en téléphone par Célia Gutti.
Il y aura bien un nouveau procès des viols de Mazan.
Et donc aussi une nouvelle épreuve pour Gisèle Pellicot, même si son ex-mari et principal accusé a décidé de ne pas frapper d'appel le verdict rendu par la justice qui l'a condamné à 20 ans de réclusion. Plusieurs co-accusés, plus exactement 17 des 50 autres bourreaux qui ont participé à cette décennie de viols au domicile conjugal, ont choisi eux de contester la décision de la cour criminelle de Vaucluse. La date de ce nouveau procès n'a pas encore été arrêtée. Ce sera vraisemblablement à la fin de l'année prochaine à la cour d'appel de Nîmes et devant un jury populaire.
Il est midi 40 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Ils sont à eux seuls les représentants de l'une des dictatures les plus sanglantes d'Amérique latine. Le président nicaraguayen Daniel Ortega et son épouse, accusés de violation systématique des droits de l'homme, sont désormais visés par un mandat d'arrêt international. Nicolas Théillard, bonjour.
Bonjour.
Hier, un juge argentin a donc ordonné l'arrestation du couple présidentiel en vertu du principe de la compétence universelle qui permet donc au pays de poursuivre les crimes contre l'humanité, quel que soit le lieu où ils ont été commis. Et en l'occurrence, Nicolas, c'est un groupe de professeurs de l'Université de Buenos Aires qui est à l'origine de cette plainte.
Et l'avocat qui a mené la procédure évoque la dictature peut-être la plus sanglante qui ait jamais existé sur le continent, décrivant la longue liste de crimes reprochés à Daniel Ortega et son épouse. Assassinat, disparition forcée, torture ou transfert forcé de population, l'inventaire est édifiant à l'image de la bascule autoritaire d'un régime qui, selon ses détracteurs, ressemble de plus en plus à celui des Somoza, renversé il y a 45 ans par le Front Sandiniste de Libération. Daniel Ortega en était la figure, disait vouloir s'inspirer du socialisme d'Allende pour mener sa révolution. Battu à 3 reprises ensuite lors des élections présidentielles, Ortega retrouve le pouvoir en 2007 et ne l'a plus lâché depuis grâce à d'opportunes modifications de la Constitution. Les manifestations antigouvernementales de 2018 marquent un tournant avec une répression inédite, plus de 300 morts. Depuis, le Nicaragua a pris la forme d'un état policier entre surveillance généralisée, opposition muselée et emprisonnée. Devenue vice-présidente, Rosario Murillo place les enfants du couple à la tête des médias et des principales entreprises du pays. La réforme constitutionnelle adoptée à l'unanimité le mois dernier lui offre le statut de coprésidente et prévoit purement et simplement la fin de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Merci Nicolas Théillard. Lui était passé en quelques années de procureur, superstar, chef d'État, avant une fulgurante descente aux enfers après sa destitution par les députés. Lui, c'est le président sud-coréen déchu. Ce matin, un tribunal a émis un mandat d'arrêt pour le forcer à comparaître devant les enquêteurs qui veulent l'interroger sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Quels changements ont connu les grandes institutions centrales de la vie publique française au cours de ce premier quart de 21e siècle? C'est la question à laquelle nous tâchons d'apporter une réponse toute cette semaine. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. L'INSEE a connu une véritable petite révolution grâce au numérique. On en parle avec sa directrice de la méthodologie et de la coordination statistique et internationale, Corinne Prost. Elle est l'invitée de la rédaction au micro de Diane Berger.
Bonjour Corinne Prost.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la méthodologie à l'INSEE. Alors, si l'on revient dans les années 2000, à quoi cela ressemblait la collecte de données de l'INSEE au début du millénaire? Comment est-ce que l'on procédait? Quels étaient les moyens privilégiés à l'époque?
Alors, en 2000, pour illustrer la façon de procéder de l'INSEE, pour ses enquêtes et le recensement, l'INSEE envoyait aux personnes et aux entreprises des questionnaires papier. Et parfois, des enquêteurs allaient sur le terrain pour poser les questions directement aux personnes. Le cœur de métier, c'était bien les enquêtes.
Oui, et alors aujourd'hui, on parlait de questionnaires papier. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que ça existe encore?
Ça existe encore, mais ce n'est plus la majorité, la façon privilégiée de recueillir des informations. On a maintenant des enquêtes par Internet. C'est en 2004 que l'INSEE, pour la première fois, a proposé aux entreprises de répondre à ces enquêtes par Internet. Et ensuite, les autres enquêtes et le recensement, petit à petit, ont aussi proposé aux enquêtés de répondre par Internet. Et pour illustrer ça, en 2024, 75% des personnes qui répondaient au recensement ont répondu par Internet. mais les autres ont répondu sur le questionnaire papier.
Mmh. Donc il y a un développement de l'usage du numérique, d'Internet. Est-ce que le numérique a eu d'autres effets sur la manière de collecter des données, des statistiques, de créer toute cette base de données conséquente qu'est l'INSEE ?
Tout à fait. Alors notamment l'informatisation et l'accroissement des capacités de traitement des données a permis l'accès à nouvelles sources d'informations. Alors je peux donner un exemple, par exemple sur le revenu des ménages et le taux de pauvreté. Au courant des années 2010, l'INSEE a pu combiner des informations qui provenaient des déclarations d'impôts sur revenus et des informations qui provenaient des prestations familiales et sociales. Et ça, ça a permis, en combinant toutes ces informations, de mesurer le taux de pauvreté à des niveaux du territoire très très fins. Donc par exemple, maintenant, on sait mesurer le taux de pauvreté sur des quartiers. Et donc, pour donner un exemple, on sait que sur les quartiers prioritaires, le taux de pauvreté s'élève à 45%, alors qu'il est de 15% en moyenne sur l'ensemble du territoire.
Mais donc, on imagine quand même bien avec le numérique que même si, vous le disiez très bien, cela ne fait pas tout, c'est quand même une aide considérable. Ça a dû changer la masse de données à traiter aussi, la manière de les traiter.
Tout à fait, ça a changé la manière de les traiter et ça a accéléré certaines diffusions de données, c'est-à-dire qu'on peut aller plus vite. Pour donner un exemple, la première estimation d'emploi salarié, elle est publiée maintenant à 35 jours après la fin d'un trimestre. C'était 45 jours il y a quelques années. La première estimation de la croissance, elle est publiée à 30 jours après la fin du trimestre. C'était 45 jours auparavant. Donc, ces informations permettent d'aller plus vite lorsqu'elles sont pertinentes et qu'on les utilise pour compléter nos données habituelles.
Et alors, on imagine bien aussi avec cet accroissement de la part du numérique, de l'informatique, ces nouvelles bases qu'on arrive à utiliser pour créer des données, on imagine bien que ça a profondément changé aussi les méthodes de travail, les méthodes des enquêteurs. Quels ont été les grands bouleversements? Quels ont été les grands changements? Est-ce qu'il y a peut-être des services qui ont pris de l'ampleur, d'autres qui ont changé de forme?
Alors pour les enquêteurs, effectivement, de façon générale, ils utilisent beaucoup plus les outils informatiques qu'avant. Et puis, comme pour certains enquêtés, on leur propose de répondre par Internet, les enquêteurs vont aller voir les personnes qui n'ont pas voulu répondre par Internet. Ça peut être des personnes plus difficiles à convaincre de répondre aux enquêtes ou plus âgées, voilà, qui n'ont pas souhaité répondre par Internet.
Oui, c'est ça, il faut réussir à convaincre des personnes qui sont peut-être aux marges de la société.
Oui, c'est ça, qu'il faut convaincre des personnes qui sont plus éloignées du numérique. Donc, il faut convaincre malgré tout de répondre et de laisser entrer l'enquêteur avec son ordinateur, recueillir les réponses au questionnaire. Donc, le travail des enquêteurs, c'est informatiser lui aussi, avec des enquêtés peut-être plus difficiles. Et puis, du côté des statisticiens, on a vu émerger des nouveaux métiers. Donc, on a ce qu'on appelle des data scientists en bon français. Des personnes qui vont savoir travailler sur des bases de données beaucoup plus volumineuses qu'avant et avec des technologies plus récentes.
Et alors, avec toutes ces nouvelles manières de collecter des ressources, vous l'avez dit, on a des ressources plus fines, avec toutes ces manières de collecter des données pour créer des statistiques, on a des statistiques plus fines, on a des statistiques qui arrivent plus rapidement. On peut aussi se demander s'il est encore possible de comparer les données qui vont être produites en 2025 avec celles des années 90. Est-ce que, voilà, sur un plan méthodologique, comment est-ce qu'on assure une continuité qui permette de comparer la situation des années 2020 à celle d'il y a 30 ans? Comment est-ce que l'on fait?
Alors, oui, il est possible de les comparer, ou lorsque ce n'est pas possible, l'INSEE le précise. L'INSEE doit assurer la comparabilité sur un certain nombre d'indicateurs principaux, que ce soit le produit intérieur brut, le taux de chômage, etc. C'est très important de pouvoir comparer les données dans le temps. Comment est-ce qu'on fait ? On utilise différentes méthodes statistiques pour redresser le cas échéant le taux de couverture de ces données. Et puis, on les utilise seulement en complément, le cas échéant, ou on les utilise, comme je vous l'ai indiqué, pour les données de tickets de caisse, effectivement, en plus des données relevées par les enquêteurs.
Merci beaucoup, Corinne Prost.
Merci à vous.
Corinne Prost, donc directrice de la méthodologie de la coordination statistique et internationale à l'INSEE. Elle répondait à Diane Berger. Enfin, on l'a appris ce matin, la mort du compositeur franco-américain Tom Johnson, élève de Morton Feldman dans les années 60 à New York. Il s'était installé en France en 1983 avant de devenir l'un des principaux représentants du courant musical minimaliste. Son langage libre et souvent teinté d'humour, d'ailleurs, s'était exprimé à travers la composition notamment de plusieurs opéras comme l'opéra de quatre notes ou bien encore cette Rational Melody. Tom Johnson était âgé de 85 ans. Et on termine donc en musique avec un mot du temps pour cet après-midi couvert au nord de la Loire, ensoleillé du sud-ouest aux Alpes et jusqu'aux Vosges. Quant aux températures, elles seront comprises entre 1 et 12 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.